Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Bienvenue sur dans la première émission de Ciné Forever. Vous êtes sur Moi FM, MOIFM. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Christophe Lemaire, bonjour.
Bonjour, Patrick Nadjar, Valo Belkacem. Ah merde, non, je confonds tout. Patrick Nadjar, tout court.
Et nous allons parler de Starfix, puisque un très joli livre vient de paraître. Mais avant ça, nous allons écouter un peu de musique. Maestro. Vous venez d'écouter le générique du film New York 1997 de John Carpenter, musique de John Carpenter. Christophe, tu voulais nous dire sur cette musique ?
Bah, évidemment, ça, c'est une de mes musiques cultes, une de mes BO préférées de toutes, parce qu'à un moment j'écoutais que des BO de films. Et ce qui est marrant, c'est que cette musique-là, précisément, c'est la BO que j'ai entendue le plus de fois de ma vie, parce qu'à l'époque, dans les années 80, avant d'être journaliste, je travaillais dans un vidéoclub à Paris. Et la journée, je mettais la cassette, parce que le CD n'existait pas, je mettais la cassette du soundtrack de Escape from New York de John Carpenter, toute la journée, toute la semaine, tous les mois, pendant un an, à tel point que mes patrons, le patron du vidéoclub m'engueulait en disant arrête avec cette musique, arrête, c'est insupportable. Et moi, j'étais complètement drogué. Mais il me semble, mon cher Patrick, que John Carpenter.
Absolument. Va venir en concert le 9 novembre au Grand Rex pour la première fois en France.
Oui, parce que John Carpenter, réalisateur de films de fantastiques américains et qui s'est un peu recyclé depuis un ou deux ans dans les concerts, puisqu'il ne tourne quasiment plus de films et qui, maintenant il passe son temps à faire des tournées en interprétant les musiques de ses films qu'il a composées lui-même.
Tout à fait. Donc c'est une grande première pour la France et ça sera un gros bonheur pour tous les fans de pouvoir le voir et jouer ses morceaux. Nous allons parler un petit peu de news, de nouvelles en fait. Actuellement, si vous aimez bien sûr les séries, est-ce que Christophe, tu aimes les séries
télé? Ouais, oui, en fait, oui. Je suis devenu au départ, je voulais pas parce que j'ai juste 4500 films à voir chez moi. Je me suis dit, je vais jamais me mettre aux séries, ça va me prendre trop de temps.
Que ça
Non, j'en ai beaucoup plus en fait. Je mens, sinon on va m'enfermer à l'asile. Et en fait, non, je me suis mis aux séries à partir des Sopranos en fait. Et là, il faut dire ce qui est, c'est absolument génial, une qualité d'écriture, de réalisation, de scénario, des trucs que tu vois plus
dans le cinéma
américain aujourd'hui, qui est complètement marvelisé. Donc,
De toute façon, on sait bien que le cinéma américain, tous les scénaristes s'en donnent les séries. Hein.
Ah bah oui, tout le monde va là-bas, hein, même les grands réalisateurs, même ceux qui n'arrivent plus à tourner, on parlait des réalisateurs des années 80, il y en a qui commencent à bifurquer vers les séries, et j'essaye d'ailleurs de ne regarder que les meilleures séries parce que si je commence à regarder tout, c'est fini.
De toute façon, il y a beaucoup de séries, hein, c'est énorme.
Ah, c'est monstrueux. Donc,
Simplement de vous dire que Game of Thrones, qui est la série numéro 1 dans le monde, la saison 7, ça sera pour juin 2017. Et une scène importante a été tournée en France. Pour les séries Walking Dead, bien sûr, c'est la série numéro 2 à travers la planète, a eu un épisode qui est passé dimanche. Que tout le monde attendait, c'était la saison 7 et une grande révélation. Donc la saison 8 a été renouvelée, grand fan et d'autres normalement également puisque c'est tiré du comics américain. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand le projet a été monté, c'était quand même un grand metteur en scène qui s'est occupé de la production, de la réalisation du premier épisode, c'est-à-dire Frank Darabont, réalisateur de 3 films tirés de l'œuvre de Stephen King. Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Donc, c'était pas n'importe quoi pour nous que ce monsieur se lance dans cette opération et dans cette série. Pour Jumanji 2.
Oh. Il va sortir. Jumanji 2, il y a un 2.
Ouais, oui. Jack Kasdan, qui est le fils de Lawrence Kasdan. Ouais, qui est le fils du grand scénariste.
Ouais, d'Indiana Jones, je crois.
Ouais, absolument. Voilà. Et lui, il va tourner le 2. Qui sortira le 9 août en France. Et concernant ce réalisateur, c'est lui qui a réalisé Sinister, le fameux Sinister, film d'horreur, extrêmement bien fait pour ceux qui aiment les sensations fortes.
C'est Jack Kasdan qui a réalisé Sinister?
Oui, absolument. Dans le film, nous aurons Dwayne Johnson, c'est-à-dire The Rock. En tant qu'acteur.
J'adore The Rock.
Mais moi aussi, j'adore.
Dwayne Johnson, ouais, j'adore.
Donc, ça sera sympa. Bon, concernant Luc Besson, il annonce Taxi 5.
Ouh.
Ça va être du lourd encore.
Comme dirait Jean Gabin. Ouh, mon petit gars, ça va pas le faire.
Et que c'est prévu la sortie le 31 janvier 2018. Bon, ce qu'on attend quand même de Luc Besson, c'est cet été, l'été prochain avec Valérian. On va voir ce que ça va donner, quoi. 200 millions de budget.
Ouais, j'ai pas grande confiance, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas grande confiance, je sais pas, c'est mon instinct primal me dit que ça va pas être génial, mais bon.
Donc voilà, pour les sorties de cette semaine, c'est Doctor Strange qui domine la situation, on va dire.
Comme de bien entendu.
Voilà. Donc tout simplement, et avec l'acteur de Sherlock Holmes, Justine.
C'est pas Benedict.
Oui, absolument.
Cumberbatch, j'arrive pas à prononcer son nom.
Ouais.
Comment on dit? Nous avons quelqu'un au fond de la salle. viens ici, tu vas le dire dans le micro.
viens nous dire.
Voilà, dis-le.
Dis-le.
Benedict Cumberbatch.
Eh ben voilà. Merci. Merci à toi.
Connu pour avoir joué dans la série Sherlock Holmes.
Absolument.
Tout simplement. Et nous avons La Fille dans le Train aussi, qui sort cette semaine. Les avis sont un peu partagés sur le sujet.
Paraît, ouais.
Moi, tiré d'un livre très célèbre.
J'adore cette actrice. Moi, je suis fan de...
Et une comédie française qui s'appelle Tamara. Bon.
D'accord.
Wait and see, comme on dit.
Ouais.
Tout simplement. Concernant le box-office, qui date à peu près de 2 semaines, c'est le film de Tim Burton qui domine la situation, et c'est pas une surprise. Hein.
Ouais, moi, j'étais déçu.
T'as été déçu?
Non, parce que je trouve que depuis, ça crée un paquet de temps. Plus en plus de gens sont déçus par Tim Burton. C'est pas tant qu'on est déçu, c'est pas tant que le film soit mauvais, c'est qu'en fait, on dirait que le film n'est pas habité. C'est-à-dire qu'on dirait que Tim Burton fait du Tim Burton, et on a l'impression de visiter le musée Tim Burton, comme depuis quelques films. Et il y a plus une vraie folie. La vraie folie qu'il y avait dans ce début, dans les films comme Pee-wee, par exemple. Moi, c'est mon Tim Burton préféré, d'ailleurs, le tout premier. Et là, je sais pas, on dirait, c'est très curieux parce que c'est bourré d'idées, c'est bourré d'effets visuels assez étonnants, et en même temps, ce n'est pas habité, le film n'est jamais habité.
Est-ce que tu crois que la production Disney y est pour quelque chose?
Je sais pas, bon, évidemment, avec toute cette marvelisation ambiante, peut-être qu'il y a des exécutives qui, je pense pas quand même que Tim Burton soit surveillé, je crois que lui, il doit être assez libre de ses mouvements. Mais moi, j'ai été vraiment, je me suis fait chier, quoi. Mais bon, pour dire la vérité. Voilà.
Ensuite, c'est L'Odyssée, bon, le film sur Cousteau.
Bah, je l'ai vu.
Et alors, qu'est-ce que t'en penses?
L'Odyssée, pour un film français, c'est assez impressionnant parce que c'est plutôt bien réalisé. Lambert Wilson est formidable, Pierre Niney est très très bien. Mais c'est marrant parce que tu parlais là de séries télé. Le fait aujourd'hui de regarder des séries télé où les personnages peuvent exister, le problème de L'Odyssée pour moi, c'est que tu aurais voulu le voir en série télé parce que du coup, le film dure 2 heures, il est plutôt pas mal. Mais c'est un peu pour moi une suite de scènes, c'est-à-dire que t'as Cousteau trompe sa femme, Cousteau réalise le monde du silence, Cousteau et les rapports avec son fils, Cousteau ceci, Cousteau cela, Cousteau en Antarctique, et du coup chaque séquence est très bien, mais du coup à force, ça c'est en tant que spectateur de série télé, on est habitué finalement on a l'impression que c'est une espèce de best-of, très bien en demeurant, mais tu te dis merde, j'aurais voulu rentrer plus profondément, en voir plus sur ce personnage. Mais ça, c'est à cause des séries télé qui aujourd'hui font que voilà.
Bah, qu'on est habitué à un style de cinéma.
Bah, qu'on est habitué maintenant à rentrer plus profondément dans les histoires, dans la psychologie des personnages, qui fait qu'on voit certains films comme celui-ci. Je parle pas des Marvel, qui sont des espèces d'attractions. Mais voilà, là on se dit merde, c'est bien, mais on voudrait voir une version longue, quoi. C'est-à-dire qu'un film de 2 heures aujourd'hui, c'est des versions courtes d'une série télé. Mais bon.
Bridget Jones.
Non, c'est pas pour moi.
C'est pas ton... une comédie romantique.
J'ai vu le premier,
qui était très bien.
Qui était plutôt sympathique. Mais voilà. Non, je dis pas que c'est pas pour moi, je le finis par le voir sur le câble, mais j'ai tellement de films à voir que
tu prends, t'as d'autres priorités, quoi.
Va passer
tout
après,
simplement.
Voilà.
Et puis Radin.
Bah, moi j'ai pas vu Radin, mais j'aime beaucoup Danny Boone.
Moi également.
Il me fait beaucoup rire. Moi j'aime bien les ch'tis, j'aime bien. Alors je sais que quand on dit j'aime les comédies françaises, ça offusque toujours les fans de fantastique. Mais moi j'aime bien certaines comédies françaises, dont moi je trouve les ch'tis très très bien.
Ouais.
Je trouve les films de Nakache et Toledano formidables. Je trouve que c'est les dignes descendants de Yves Robert. Il y a plein de bonnes comédies françaises en fait, mais bon, voilà.
Et je trouve le film réussi, donc
là tu parles de quoi? De Radin.
De Radin.
Ah, tu l'as vu toi?
Oui, je l'ai vu.
D'accord.
Oui.
Donc l'idée de voir l'autre cinglé en train de faire son radin m'amuse. Après j'ai entendu dire que ça patinait un peu parce que c'est
un peu mélo à la fin, quoi.
Voilà, paraît-il. Mais j'irai le voir, enfin j'ai envie de le voir, voilà.
Voilà, Maestro Music. Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, maintenant nous allons attaquer le sujet de l'émission avec Christophe Lemaire, notre invité.
Oui, c'est moi. Oui,
nous allons parler de Starfix. Alors, oui. Raconte-nous comment a débuté Starfix, comment vous êtes rencontrés, la genèse du magazine, tout simplement.
Bah, Starfix, c'est donc une revue qui a existé de janvier 83 à décembre 90 et qui a réuni des fondus de cinéma, des cinéphiles, quoi. Plus particulièrement des cinéphiles fondus de cinéma de genre. Et c'est né, je pense, on faisait tous des fanzines à l'époque, hein.
Absolument.
Y compris toi d'ailleurs, je crois.
Absolument.
Voilà. Comment il s'appelait le tien?
Ciné Fantasy.
Ciné Fantasy, voilà.
Et le tien, il s'appelait comment?
Moi, il s'appelait Fantasme. Et pour prendre les rédacteurs de Starfix qui avaient chacun leur fanzine, Nicolas Boukrieff, c'était Intruder, Christophe Gans, Résus Zéro, François Cognard, Rouge Profond. Et donc tous ces gens-là se sont réunis. C'est Christophe Gans et Doug Edline qui ont créé la revue avec l'argent d'une boîte qui s'appelait Scarzo Vidéo, pour laquelle Christophe Gans travaillait, puisqu'il choisissait des films bis, finalement.
Pour la compagnie.
Des films bis et des films porno aussi. Mais donc il y avait, voilà. Et ces films-là ont fait un carton monstrueux, ce qui a permis à Scarzo, avec l'argent obtenu grâce à ces films, de créer cette revue qui a débarqué comme ça dans les années 80 et qui était assez unique, puisque c'était, je crois, la première revue de cinéma en couleur, mis à part première était déjà en couleur, mais après première, c'était la seule revue, toutes les autres revues étaient en noir et blanc, hein, positif, les cahiers du cinéma, on était vraiment la première revue de cinéma en couleur et la première revue qui parlait complètement
d'un
de
cinéma,
genre,
ouais,
hormis les grands fantastiques et Matt qui eux étaient spécialisés uniquement dans le fantastique. Nous, on a fait fantastique et cinéma de genre au fur et à mesure de bifurquer vers le cinéma en général, mais avec notre ton qui était un ton de passionné,
oui,
on avait chacun notre style en fait dans cette revue, qui fait que la revue avait une espèce de ton je pense différent de ce qu'on pouvait lire dans la presse et qui accrochait le lecteur, ainsi que l'iconographie, que le comme à Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, c'est un peu ça. Et du coup, ça a créé, malgré nous, enfin sans qu'on s'en doute sur le moment, une espèce de génération Starfix, si j'ose dire, de gens qui étaient complètement accros au magazine et qui sont aujourd'hui éparpillés dans toutes les couches de la société. Parce que l'on connaît, voilà. On connaît, je sais pas, des gens de chez L'Oréal. Un patron de chez L'Oréal, je crois, était fan de Starfix, des pilotes d'avion, des cinéastes. On en croise de temps en temps dans tous les milieux. C'est plutôt marrant, quoi.
Ouais, voilà. c'est assez génial quand même, parce que ça a quand même marqué son époque.
Oui, surtout qu'on a mis en avant des cinéastes qui n'étaient pas mis en avant dans les autres magazines, comme Paul Verhoeven, James Cameron, Sam Raimi, Zulawski, bien sûr, des tas de cinéastes comme ça, des tas. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on les a, j'aime pas dire le mot découvrir, ça fait toujours un peu frimeur, mais on les a vraiment
mis en avant,
et on en parlait d'une certaine façon, qui fait que voilà. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de ces cinéastes aujourd'hui ne sont été reconnus beaucoup plus sur le tard. Je veux dire, il a fallu attendre des années avant que Verhoeven ne soit reconnu par soit une intégrale à Cinémathèque.
Tout à fait. Ou David Cronenberg.
Voilà, Cronenberg. Nous, on parlait de Vidéodrome à l'époque où Cronenberg était considéré par Télérama comme un, ou d'autres, par un misérable putérisateur de films d'horreur. Alors que aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on n'est pas très très fan de Cronenberg, alors qu'il était fondu par Télérama, voilà.
Ouais, c'est assez drôle.
Et voilà, et on a passé 8 ans à défendre ces films en rigolant beaucoup, parce qu'il y avait une sacrée ambiance dans cette rédaction de Starfix.
Mais ça se passait comment? Les gens présentaient des auteurs, des articles qu'ils voulaient faire?
Oui, on avait des réunions de rédaction et faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait pas Internet, hein. On travaillait par fax, par téléphone, et c'est drôle parce que quand on relit, parce que le livre, en fait, le livre qui sort là sur Starfix est constitué à 70% d'articles repris tels quels est publié dans les 30 premiers numéros, sachant qu'il y a eu 90 numéros en tout, donc un best-of des meilleurs articles des 30 premiers numéros, et les 30% restants, ce sont des nouveaux textes faits par l'équipe originale de la rédaction, ce qui est un cas unique dans l'histoire de la presse française, c'est que 25 ans après la mort d'un magazine, il y a les journalistes qui ont créé ce magazine, donc du coup 33 ans, ils reviennent pour refaire des textes, c'est jamais vu quoi. Donc
c'est voilà. Ça qui est génial et qui fait du succès du livre.
Eh ben alors le livre a été mis au moment où je vous parle, a été mis dans les Fnac, enfin un peu partout en France, il y a 5 jours je crois, 5-6 jours, 4-5 jours. Et il est déjà en rupture de stock chez l'éditeur. Donc c'est un succès qui est complètement
un beau
fou.
Succès phénoménal. Je pense que vous avez tous reconnu les Jackson 5, bien sûr, Aventure Back, tiré des Gardiens de la Galaxie, dont le deuxième épisode sortira l'été l'année prochaine. On attend. Tu as vu la bande-annonce, non, du 2 ?
Les Gardiens de la Galaxie ?
Ouais.
Non.
Mais enfin, elle vient d'arriver.
Je regarde de moins en moins les bandes-annonces sur Internet parce que, on monte tout à chaque fois, les bandes-annonces. Et c'est quand même, ça me fait yesh. Donc du coup, j'évite maintenant de... Je ne regarde pas
les bandes-annonces. Moi, j'ai un ami qui fait pareil. Même au cinéma, il se bande les yeux, il ne veut pas voir la bande-annonce. Parce qu'après, quand il veut voir les films, t'as tout dessus. T'as tout dedans. On continue toujours sur Starfix.
Alors, oui.
Hélène Méric, moi, je ne la connaissais pas. Bon, je connaissais les autres puisqu'elle faisait des fanzines. Mais comment est venue Hélène Méric dans l'histoire ?
Bah, Hélène, alors déjà, moi, je suis arrivé après. Attention.
Après?
Moi, je suis arrivé. Le canard a été créé en janvier 83. Je suis arrivé en novembre 83. Hélène y était déjà. Il y avait déjà une équipe. Il y a eu Doug et, puisque c'est écrit par Doug Edline et Christophe Gans. Donc, Doug et, il y avait déjà Nicolas Boukrieff, Christophe Gans.
En fait, toute l'équipe était formée.
Moi, je suis arrivé après. Et Hélène, elle est arrivée avec Doug Edline, puisque je crois, puisque Hélène et Doug travaillaient avant à Métal Hurlant, donc la revue de Manœuvre et Dionnet. Donc elle venait de là. Et donc elle était déjà en place. Moi j'ai fait la connaissance d'Hélène qui est devenue une amie. J'ai fait sa connaissance dans les locaux quoi. Et du coup on l'appelait la fille Starfix parce que c'est voilà. Elle a même écrit d'ailleurs sa propre autobiographie qu'elle a auto-édité qui s'appelle La fille de Starfix. Et ce qui est marrant c'est qu'en lisant son livre, moi j'ai appris des tas de choses que je ne savais pas sur Starfix puisque
alors
je suis arrivé
à l'intérieur,
après.
Ouais.
Non mais je suis arrivé après. Ouais. Donc toute la jeunesse de Starfix serait beaucoup trop long à raconter. Voilà ce qui se passait dans les bureaux quand moi j'y étais pas. Elle le raconte. Donc moi je voilà, ça me permet de raccommoder les bouts quoi avec ma propre expérience starfixienne. Ouais.
Donc, voilà. Alors raconte-nous un peu le colonel Kurtz, c'était qui ? Parce que tout le monde pense que c'était toi.
Bah, le colonel Kurtz, pareil, il existait quand je suis arrivé. C'était un personnage qui était... Alors le colonel Kurtz, pour savoir, c'est Marlon Brando. À la base, c'est le nom du personnage de Marlon Brando dans Apocalypse Now.
Ah, tout à fait.
Et ça a été un pseudonyme, je crois, co-animé, si j'ose dire, par François Cognard et Nicolas Boukrieff, je crois. C'est un peu flou hein, des fois dans ma mémoire parce que tu me demandes des trucs qui remontent il y a 30 ans et je crois que même moi j'ai été colonel Kurtz à un moment parce qu'on utilisait ce pseudonyme aussi à un moment dans un encart qui n'était dans Starfix, il n'était envoyé qu'aux abonnés où on délirait complètement. Je sais que dans cet encart moi j'ai mis des poèmes que j'avais écrits quand j'avais 12 ans, c'était une espèce de grand foutoir voilà. Et c'était aussi Colonel Kurtz un pseudo pour répondre aux courriers des lecteurs dont d'ailleurs la moitié était inventée par nous. Donc c'était on inventait les lettres au début de Starfix, enfin Nick François Cognard et Nicolas Boukrieff inventaient les lettres et ils répondaient eux-mêmes, donc c'était complètement surréaliste.
Tout simplement. Thank you. Bidor tiré de l'œuvre d'Ennio Morricone. Ennio Morricone est quand même un des grands compositeurs de la musique de notre époque. Et puis les Oscars, ils ont donné un Oscar pour son dernière œuvre, on va dire, à 87 ans.
Bah c'est le plus grand. Il est considéré comme le plus grand compositeur de musique de film de toute l'histoire de compositeurs de musique de film.
Voilà, avec les 8 salopards. Il a eu, il y a quelques années, un Oscar pour toute sa carrière, mais chose bizarre, c'est la première fois qu'il a obtenu ce bel objet, comme on dit. Alors, Starfix.
Oui, c'est vrai. Ah, Starfix.
Alors, raconte-nous comment ça s'est passé durant les années. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas?
Ah bah oui, comme partout, c'est Starfix, c'était une famille. Hein. On vivait ensemble presque. C'est ça qui est rigolo. Non, mais c'est vrai. En plus, on était, on vivait Starfix comme si on était une famille en fait. C'est-à-dire qu'on, c'était pas des erreurs de bureau. Tu vois, on venait quand on voulait. Alors c'était toujours ouvert quasiment. Plus ceux qui rendaient leurs textes très en retard, je ne citerai pas de nom.
Ah bon ?
Pas
voilà, de délation.
Donc du coup, il y avait toujours deux ou trois qui restaient à la rédaction jusqu'à 3-4 heures du matin, d'autres qui arrivaient. Voilà, puis pour certains, on était très très, on est restés amis. Moi, je suis même François Cognard et Nicolas Boukrieff sont restés, sont mes frères hein, quasiment. Voilà, je leur dois. C'est eux qui m'ont fait rentrer dans le magazine et on partait en vacances ensemble, on allait au ciné ensemble, au resto ensemble. On était vraiment très soudés. Après, évidemment, il y a toujours des. Comme dans toute famille, il y a eu des hauts, des bas, des mauvaises ventes, des bonnes ventes, mais finalement, on est tous de nouveau là pour ce livre best-of.
Absolument. Alors, raconte-nous un peu, parce que Nicolas Boukrieff, c'est devenu un metteur en scène.
Bah, en fait, il y en a trois qui sont passés à la réalisation, et un à la production. Donc, Doug a fait un seul film qui s'appelle Brocéliande, qui est un film fantastique, qui a réalisé il y a quelques années. Bon, Christophe Gans, on connaît son parcours. Il a fait le Pacte des Loups, qui a un peu lancé presque 5 millions d'entrées à lancer vraiment le cinéma de genre en France.
Et puis bon, il a fait Silent Hill,
etc. Et la belle dernièrement. Là, il est sur plusieurs projets. Et Nicolas Boukrieff, voilà, et a fait aussi un paquet de films, 7 ou 8. Il était en tournage, au moment où je vous parle, il y a 2-3 jours, un téléfilm pour Arte, inspiré d'un manga en plus, mais je ne connais pas le titre, je ne sais pas de quoi ça parle. Et avant ça, il a sorti, il y a eu l'histoire de Made in France.
Donc, la fameuse histoire
où il a fait un film autour du terrorisme. Voilà.
Et donc, il n'a pas pu le sortir.
Parce que le film devait sortir la semaine où il y a eu les attentats du 13 novembre. Donc, ça fait tout un pataquès. Le film était annulé et sorti finalement directement en VOD et du coup a fait un carton. En VOD, et le film est formidable. J'adore ce film. Il est connu aussi pour Le Convoyeur, le polar avec Dupontel. Donc voilà, et François Cognard, lui, est passé à la production et il a notamment produit les films de Bruno Forzani et Hélène Cattet, qui sont dont les deux premiers, Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, sont des hommages au giallo italien, des espèces d'hommages fétichistes fous, psychotroniques et pulp et pop. Et là, il vient de produire leur troisième film qui a été tourné cet été, qui s'appelle Laissez bronzer les cadavres, et qui est une adaptation du tout premier roman de Jean-Patrick Manchette, qui, dans la vie, était le père de Doug Henline, qui travaillait à Starfix.
Tout le monde se retrouve, c'est dans la même famille, de toute façon.
Tout ça reste en famille, donc ça, ce sera un polar western. Parce que je suis passé sur le tournage, justement, en Corse cet été, et c'est vrai que c'était assez impressionnant, parce que le tournage était... se faisait en haut d'une montagne où ils amenaient les décors en hélicoptère, les couples devaient grimper 3/4 d'heure à pied en escalade. Enfin, c'était du Werner Herzog, ce tournage.
C'est de la folie, ce tournage.
C'était la folie. Ça va être super.
Et ben, un petit intermède musical, on reviendra vous reparler de Starfix.
Oui.
Thank you.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, vous venez d'écouter la musique de la série Games of Thrones, saison 2, de Monsieur Ramin Djawadi. Voilà, on continue à parler de Starfix. Hein.
Oui.
Puisque tu es venu ici pour ça. Hein.
Il me semble.
Alors, dis-nous, d'où on peut trouver ce livre ?
Ah bah
ce
partout,
magnifique livre.
Partout, dans les Fnac, chez Gibert, chez ta mère, dans les sex-shops.
Ah bon ?
Sur l'autoroute A6, dans les McDonald's, partout en fait.
Partout, dans les bonnes librairies, comme on dit.
Dans les bonnes librairies qui se respectent, elles se respectent si elles vendent de Starfix, autrement elles ne se respecteraient pas alors.
Absolument. Et donc ça permettra à beaucoup de jeunes de pouvoir découvrir ce magnifique...
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont voir des films Marvel, par exemple, faut savoir que c'est un peu grâce à nous, en fait. Ben oui, parce qu'on était les premiers en France à parler de tout ça, quoi, de toute cette culture pop, super-héros aussi, parce qu'on a fait des couvertures avec Robocop, Total Recall, avec Schwarzenegger,
Que grâce aux effets spéciaux, maintenant, les films de super-héros peuvent se faire facilement, on va dire, entre guillemets, quoi.
Ouais, un peu trop facilement à mon goût. Mais
bon. Qu'est-ce qu'on t'en pense des films super-héros? Le scénario est trop léger,
c'est ça. Du cinéma aujourd'hui, bien sûr, et je suis pas le seul à le dire. Même Spielberg le dit.
Mais il y a même William Friedkin qui disait que
tout le monde, William Friedkin,
que ça va être la fin
Jason
du cinéma. C'est la fin du cinéma.
Jason Statham dit ça. Bah oui, sauf que là, je pense que ça va pas. À un moment, ils vont faire des efforts. Alors, je veux dire par là que moi, Avengers 1, ça a été le pire supplice en salle. De tous les films que j'ai vus, l'année où Avengers est sorti, c'était Guantanamo pour moi dans la salle.
Ah, c'était carrément. Moi, j'adore l'enfer. Ce film. C'est le plus grand film d'effets de super-héros pour moi.
Avengers intégral. Et là, par contre, j'ai entendu dire que, alors, du coup, j'ai un peu zappé les films de super-héros. Et là, il paraîtrait que Doctor Strange, c'est pas mal. Qui est donc sorti aujourd'hui, voilà.
Tout simplement.
Donc, je vais peut-être aller jeter un quart d'œil droit.
N'oublie pas l'œil, l'autre aussi. Hein.
Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on est. C'est un peu l'être humain fait comme ça. Plus on vieillit, plus on est nostalgique. Donc moi, j'aime bien les vrais films avec des vrais acteurs qui jouent des vrais rôles et je retrouve pas ça dans la majorité des films Marvel qui sont tout le monde le dit, hein, une espèce de débauche d'effets pyrotechniques impressionnants, mais que tu regardes, t'as l'impression d'être dans une salle et de voir une série d'explosions.
Et je suppose que tu détestes la 3D.
Ça dépend, c'est-à-dire que
lunettes
La 3D au contraire, je me suis même acheté une télé 3D moi.
Ah d'accord.
Alors ça dépend les films. Mais il y a des films dont la 3D, ça dépend lesquels films. Moi, je trouve que c'est rare les films qui utilisent super bien la 3D.
Tu as des exemples, par exemple?
Avatar, évidemment, l'utilise bien parce que James Cameron a fait en fonction. Bizarrement, j'ai trouvé que le dernier Independence Day, donc tout le monde chie dessus, mais moi j'ai une petite. Je devrais pas aimer ça normalement.
Une petite faiblesse, comme on dit.
Une petite faiblesse. Et je trouve que la 3D est formidable, par exemple, pour ce film. Je trouve le très efficace. Et la 3D, je prends. Mais le problème de la 3D, c'est que ce qui est très bizarre, c'est que tu t'habitues, en fait. C'est-à-dire que au début, tu dis, c'est super impressionnant, on voit la profondeur de champ, on a les trucs dans la gueule. Et puis, finalement, au bout de 20 minutes de projection, tu oublies un peu. Tu oublies que tu regardes le film et est en 3D. C'est assez bizarre comme sensation. Sauf quand tu as un grand metteur en scène derrière, comme James Cameron.
Ce qui est dommage pour James Cameron, c'est que il va se restreindre sur son Avatar 2, 3, 4. Chaque année, il en ajoute. Hein. T'as pas remarqué,
je sais, mais là, il en fait 3. Et je crois qu'il en tourne plusieurs d'un coup en ce moment. Donc, on va. C'est comme Lucas avec ses Star Wars. Hein, donc,
Mais bon, maintenant, Star Wars.
Il devient monomaniaque, le bonhomme.
Il a vendu les droits, donc.
Donc, voilà.
Disney est derrière. Le monstre Disney est derrière. Tous ces films. Et c'est ça aussi qui est intéressant, puisqu'ils arrivent à sortir. Mastodon de films de Star Wars qui sont en préparation dans le 14 décembre avec Rogue One, tout simplement. Et le prochain, ça sera en juillet, le Star Wars 8. venez d'écouter Halloween 2 de John Carpenter, une musique un peu logique puisque Halloween approche à grands pas.
Ah, exact.
Et puis John Carpenter vient en concert le 9 novembre pour tous les fans. Voilà, bah, nous allons continuer toujours sur Starfix.
Ah oui.
Alors, Christophe,
oui.
Qu'est-ce que vous avez fait pour ces 30% supplémentaires ?
Alors moi j'ai fait l'édito, enfin un des éditos, parce qu'il y a plein d'éditos en fait, dont Mathieu Kassovitz qui nous a fait un super texte, sachant que Mathieu était lecteur à la base, il était tout petit Mathieu, il avait 15-16 ans, je sais plus, 17 ans, non peut-être plus, je sais plus, et il était lecteur à l'époque. Et surtout, nous aussi, on a eu un édito de William Friedkin qui nous a super ému et super fait plaisir, puisqu'on avait fait un des meilleurs articles qu'il y a eu dans Starfix. C'était un découpage d'une séquence de Police fédérale Los Angeles, film emblématique de l'histoire de Starfix. Et Friedkin l'avait lu, ce papier, enfin en tout cas se l'était fait traduire, et trouvait ça génial, et nous a fait, il s'en est souvenu, et quand on a demandé de faire le truc, il a répondu, il a fait un petit texte que, voilà, assez juste sur ce qu'on était, ce qu'était l'époque, les années 80, ce qu'était Starfix au sein de cette époque, même s'il connaissait évidemment pas spécialement à fond le magazine, mais ça nous a vraiment fait très plaisir, quoi.
Ouais,
et voilà, donc j'ai fait l'édito et j'ai fait aussi, parce que j'avais aussi un autre pseudonyme dans Starfix, c'était Robert Pimboeuf, où je délirais, c'était, je faisais des papiers où je délirais complètement, je partais en vrille, et là du coup j'ai fait un papier où je raconte, je me suis dit, mais pour un livre Starfix, il faut que je fasse quelque chose de différent, et j'ai fait un truc que personne n'a jamais fait d'ailleurs, je pense, je raconte mes rêves cinématographiques.
Ouh là là, ça va être un grand spectacle ça.
Ah, c'est un peu un espèce, c'est complètement surréaliste, donc parce que je note les rêves que je fais maintenant depuis seulement 3-4 ans, et dedans j'ai fait des rêves en rapport avec le cinéma, et je rêve, voilà, de Sharon Stone.
Alors de quoi tu rêves, s'il te plaît?
Alors
raconte-nous un petit peu.
Non, mais c'est des rêves qui ne veulent absolument rien dire. Je me souviens pas, je crois qu'il y en a un, je sais plus si je l'ai mis dans le bouquin, où je me baigne à poil dans la Seine à Paris, et puis je
bien
sors,
courageux, hein.
Je sors de la Seine, je rentre dans une grotte, et dans cette grotte on duplique des Spider-Man à la chaîne dans une espèce d'immense usine. Ben, c'est des trucs complètement surréalistes.
T'as pas mal d'imagination quand même.
Mais non, mais c'est mes rêves, ils sont mais tout est vrai. C'est-à-dire mes rêves que je raconte dans Starfix sont vrais. Et bon, moi c'est un peu, j'étais un peu toujours le bozo de le clown dans Starfix, enfin celui qui faisait voilà, qui je me suis jamais pris ce métier de critique ou de journaliste au sérieux, il faut le savoir. Donc du coup je délirais assez beaucoup dans Starfix, je faisais moins d'analyse et plus de déconne. Contrairement à mes camarades qui eux faisaient de l'analyse mais arrivaient aussi à déconner. Donc, mais pour les gens d'aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est, je crois que le meilleur moyen c'est déjà d'aller le feuilleter dans les Fnac pour vous rendre compte avant, et puis de après voilà.
Mais tout le monde dès qu'on a décidé en fait de refaire ces 30% supplémentaires, est-ce que tout le monde a accepté immédiatement ou certains ont été réticents?
Non. Écoute, je pense que j'essaie de me souvenir des réunions de rédaction parce qu'on a eu du mal aussi à se retrouver vraiment tous ensemble en même temps. Donc à chaque fois, c'était des réunions, il en manquait toujours un ou deux.
Et mais ça remonte à combien de temps ces réunions?
Bah, la première fois qu'à la base, on s'est réunis non pas pour faire un livre, on voulait se retrouver en fait tous. Donc on a fait des réunions chez, on s'est retrouvés à des repas, soit chez la maquettiste Paola Boileau, soit chez Frédéric Albert Lévy, des rédacteurs, qui donc est devenu le rédacteur en chef du livre. Et à la base, on s'est dit, on remettrait bien le couvert. Donc on s'est dit, on va pas lancer la rue, c'est pas possible. On va faire un blog, on va faire, mais c'est pareil, c'est pas possible. Et tout le monde fait des films, tout le monde est pris. Et de fil en aiguille, grâce à Hélène Méric, on a croisé celui qui avait récupéré le titre de Starfix, qu'il avait déjà d'ailleurs réédité dans les années 90, qui s'appelle Patrice Giraud. Et Patrice nous a suivis dans l'aventure, puisqu'il était fan aussi de
absolument, grand fan de Star Wars.
De Star Wars, puisqu'il a écrit lui-même, il vient de lui-même d'écrire un bouquin.
Voilà, il y a
Star
deux
Wars.
Livres qui sont sortis dans ces éditions et Starfix.
Et il nous a trouvé un éditeur, et voilà, et on a décidé de remettre le couvert en faisant entre un et deux textes chacun. Voilà.
Tout simplement.
Voilà.
Et ça paraissait logique qu'il fasse appel à tous les anciens de Starfix pour continuer la continuité du livre, tout simplement.
Bah oui, donc on s'est retrouvés. On a fait surtout ça avant tout pour se retrouver. Hein. C'est pas un coup de fric. On va pas faire des couilles en or avec ça.
T'as gagné une fortune comme d'habitude.
Ah oui, 1 million de dollars, le mot. Et non, on c'était surtout à la base pour se retrouver qu'on a fait ça. Et comme le bouquin apparemment cartonne, là, on l'a appris il y a 2 jours, il n'est pas impossible qu'on remette qu'on fasse un tome 2 avec...
vous avez déjà parlé entre vous pour un tome 2
On était en fait hier chez l'éditeur qui nous a invités au restaurant pour parler de... qui nous a dit... On a commencé à suggérer, de dire tiens, peut-être qu'on pourrait faire un tome 2, sachant quand même qu'on a fait un best-of sur les 30 premiers numéros. Il y a quand même 60 numéros derrière de Starfix où on parle de plein d'autres choses. Donc pourquoi pas, on verra ça on décidera ça dans 1 ou 2 mois.
Musique maestro. Eh bien, nous allons bientôt terminer cette première émission.
Déjà.
Eh oui, ça passe vite. Hein,
ouais.
Avec Christophe Lemaire qui nous a régalé.
Bonjour. Ah bah non, ça va.
Qui nous a régalé de toutes les anecdotes en grande partie sur Starfix. Donc, en préparation peut-être du 2 alors.
Bah oui, on va voir si le 1 se vend un milliard d'exemplaires et également sur la planète Mars.
Et puis,
on va en vendre encore dans la stratosphère et l'univers réuni.
Et puis si on te promet un million de dollars par article, bien sûr.
Ah bah oui.
Minimum, hein.
Ouais, minimum.
Voilà, nous allons bientôt terminer. Christophe, donne, s'il te plaît, l'invité de la semaine prochaine.
Alors, je viens d'apprendre que l'invité de la semaine prochaine est un certain Fatih Bédiard. Et Fatih Bédiard est quelqu'un d'incroyable parce que quand je fréquentais la boutique Movie 2000, une boutique fréquentée d'ailleurs par tous les gens de Starfix avant qu'ils fassent Starfix, Fatih à l'époque était squattait cette boutique et tous les samedis après-midi il devait avoir 13-14 ans et déjà à 13-14 ans il était monstrueusement cinéphile. Et je me souviens toujours de Fatih à 14 ans dans cette boutique donnant des titres originaux de films des films d'arts martiaux de Hong Kong. Nous on parlait voilà, je sais pas, on disait Shaolin contre les hommes de bronze ou je sais pas quoi, et lui il était là, il donnait les titres originaux en chinois. À 14 ans, je me dis, mais c'est hallucinant. Et c'est un méga cinéphile qui connaît et tout puis, et qui a travaillé à Mad Movie pendant des années et qui maintenant
est scénariste enfin, de scénariste
films. Et devrait, et il en parlera peut-être plus longuement la semaine prochaine, devrait incessamment passer à la réalisation avec son premier long métrage sur un script, paraît-il, absolument formidable.
Et puis voilà. Il était très connu aussi pour sortir à tous les distributeurs les phrases par cœur de certains films.
Ah bah, oui, c'est un fou furieux, en fait. Voilà.
C'est un monstre du cinéma, quoi.
Bah, c'est, moi, je le vois comme un petit Tarantino, en fait, à ouais. sa façon.
Voilà. Il est très sympa. Donc, ça sera notre invité de la semaine prochaine.
Oui.
Et nous avons été heureux de faire cette première avec Christophe.
Eh ben merci, moi aussi j'étais très content de l'accueillir. Ah ben non, c'est moi, pardon.
C'est normal, c'est la fin de l'émission.
Quelqu'un a mis de la drogue dans le thé, je pense.
Voilà. Et à la semaine prochaine.
Oui, bah, pas pour moi.
Pas pour toi.
Non, mais Fatih
sera là.
Ouais.
À la semaine prochaine et bon film et bon cinéma. Voilà,
et
tout simplement. Musique Maestro,
Maestro.
Merci.
Oui, parce qu'on a un orchestre ici.
De nous avoir secondé techniquement. Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Tell you all about it when I see you again. Tell you. When I see you. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien.